suite le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous irons tout d'abord à Vaux-en-Velin, 30 ans jour pour jour après l'embrasement de cette commune de la banlieue lyonnaise qui avait notamment conduit à la création d'un ministère d'État chargé de la politique de la ville.
Dans votre journal également, c'est un rapport cinglant pour la France qui se targue souvent d'être le bon élève de la lutte contre le réchauffement climatique.
Oui, selon le Haut Conseil du Climat, la part des émissions importées de gaz à effet de serre ne cesse d'augmenter, dépassant désormais la moitié de l'empreinte carbone du pays.
Après 2 mois de bataille entre géant français, le raid de Veolia pour fusionner avec son rival Suez a franchi une étape décisive hier.
Engie, le principal actionnaire de Suez, a décidé de lui vendre ses parts et ce, en dépit donc du vote contraire de l'État. À l'étranger, nous irons tout d'abord au Kirghizistan où des manifestations hier soir dénonçant les résultats des élections législatives font craindre une révolte, mais aussi aux États-Unis où là-bas, dans un geste de défi, Donald Trump de retour à la Maison-Blanche après son hospitalisation et bien que toujours contagieux au coronavirus, a retiré son masque hier, avant de promettre de reprendre bientôt sa campagne électorale. Enfin, à l'occasion du vote aujourd'hui à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Bénédicte Savoie, historienne, professeure d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin et élue au Collège de France. Et puis, à 12h55, Olivia sera bien sûr la grande table des idées.
Elle plaide pour ajouter un volet travail aux leçons que l'on est en train de tirer sur l'épidémie. Elle plaide pour la démocratisation, la démarchandisation et la dépollution du travail dans un livre manifeste qui paraît au seuil. Deux invités, sociologue économiste Isabelle Ferreras et Julie Batilana sont avec nous pour nous en parler.
C'était il y a 30 ans, jour pour jour, pour la première fois en France, des voitures brûlées attiraient la lumière sur ce que l'on désigne depuis généralement du doigt comme le problème des banlieues. Le 6 octobre 1990, dans la banlieue de l'Est lyonnais, la mort d'un jeune à moto percuté par un véhicule de police allait embraser Vaux-en-Velin et déclencher plusieurs jours d'émeutes dans le quartier du Mas du Taureau. Or, si ces affrontements avaient aussitôt balayé l'idée qu'une réhabilitation de la ZUP 5 ans plus tôt suffirait à faire d'elle un modèle de la politique de la ville, 30 ans plus tard, eh bien l'histoire se poursuit inlassablement. En dépit des promesses de métamorphose et autres chantiers de rénovation urbaine, eh bien la commune reste encore aujourd'hui la plus pauvre de l'agglomération lyonnaise, suscitant non seulement une désillusion certaine chez ses habitants, mais puis encore un véritable sentiment de relégation. C'est un reportage signé Mathilde Imberti.
Salah Awas a 18 ans quand les émeutes éclatent. Le jeune tué à moto est un ami à lui. Il fonde des associations pour porter la parole des banlieues. Aujourd'hui, il est cadre et il vit en famille, toujours dans le quartier du Mas du Taureau.
Donc là, aujourd'hui, moi, avec du recul, je suis pas en colère. Je suis juste, on va dire, dépité ou déçu en me disant, bon, bah, finalement, on est 30 ans après. Et quelles avancées ont été faites ? La question de fond aujourd'hui, c'est la question de la lutte contre la pauvreté et surtout la concentration de la pauvreté à un certain endroit.
Vaux-en-Velin est en effet la commune la plus pauvre de l'agglomération lyonnaise et son image ne brille pas plus qu'il y a 30 ans, regrettent ses deux amis d'enfance.
Les gens de Vaux-en-Velin, ils n'en veulent pas. Vous allez dans une entreprise, on voit votre CV, Vaux-en-Velin, ben on ne vous embauche pas.
Comme pour déménager. Ah oui, Vaux-en-Velin, on ne vous prend pas. Moi j'ai une cousine qui a déménagé, ça faisait 10 ans qu'elle demandait. Je ne sais pas si c'est pire qu'avant, mais c'est grosso modo, il n'y a aucune amélioration.
Pourtant, juste après les émeutes, la politique de la ville se dote d'un ministère et la rénovation urbaine passe par Vaux-en-Velin. Mais les habitants n'ont pas été assez associés, reconnaît la maire Hélène Geoffroy.
Je rappelle qu'en 1990, quand les émeutes éclatent, une semaine à 10 jours avant, a été inauguré au cœur du quartier un nouveau espace commercial, des équipements publics, qui n'a pas empêché qu'il y ait des émeutes. Ce qui veut dire qu'il faut aussi se pencher toujours sur l'appropriation des transformations qu'on fait par les habitants. Et donc ça apporte beaucoup d'humilité dans la politique publique qu'on mène.
Une population encore plus paupérisée avec la crise sanitaire, la courbe du chômage repart à la hausse.
Consacré par l'ONU champion de la Terre en 2018 pour ses discours poignants sur le climat, Emmanuel Macron susciterait-il désormais la désillusion, voire l'amertume des défenseurs de la cause environnementale? Après avoir renoncé l'an dernier à sa promesse d'interdire le glyphosate, voilà que l'exécutif s'apprête à faire voter à l'Assemblée cet après-midi son projet de loi permettant la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes pour sauver la filière betterave. Et puis ce matin, voilà que le Haut Conseil pour le climat nous apprend, lui, que la France ne serait pas non plus la si bonne élève qu'elle prétend être s'agissant de ses émissions de gaz à effet de serre. Ou plus exactement, que si ses émissions directes ont certes diminué, en revanche, la part de sel émise à l'étranger pour satisfaire la demande intérieure, comprenez les importations, celle-ci ne cesse d'augmenter au point même de dépasser à présent la moitié de l'empreinte carbone de la France. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Ce que pointe ce rapport du Haut Conseil pour le climat, c'est au fond, Véronique, une forme de délocalisation de la pollution.
C'est exactement ça. Il faut tout bien compter, nous dit le Haut Conseil pour le climat qui a établi ce rapport à la demande du gouvernement. L'inventaire national de nos émissions de gaz à effet de serre est très incomplet, pointe le Haut Conseil, puisque lorsqu'on intègre les émissions liées aux biens et services que nous importons de l'étranger et que nous consommons en France, eh bien on constate que notre empreinte carbone restée stable, certes depuis 25 ans, l'est parce que nous délocalisons cette pollution. Nous ne comptons pas la pollution engendrée par la production donc de biens de consommation, de biens agricoles que nous consommons en France. La moitié des émissions, 53% précisément, proviennent de l'extérieur de la France. C'est la responsabilité de la France de s'en occuper, de s'occuper de ces émissions importées, dit le rapport. Et Corinne Le Quéré, la présidente du Haut Conseil pour le climat, propose des pistes comme la mise en place d'un score carbone.
Le score carbone pourrait permettre aux consommateurs de faire des choix informés. Et c'est une proposition. Elle se construit sur des scores qui existent déjà, hein, par exemple au niveau des électroménagers, les réfrigérateurs, par exemple, où on a l'information déjà sur leur efficacité énergétique. Maintenant, le score carbone inclut aussi le produit dans les matériaux. Et c'était une proposition qui va dans le même sens que la Convention citoyenne pour le climat, qui a recommandé elle aussi d'avoir un score carbone et qui permettrait justement de mieux informer les décisions.
Les experts appellent aussi à se pencher sur la déforestation importée, la mise en place d'une stratégie nationale. La déforestation importée contribue au réchauffement climatique lorsque la France, par exemple, importe du soja du Brésil, qui nécessite pour sa production de couper de la forêt amazonienne. La déforestation importée n'est pas prise en compte dans le calcul de l'empreinte carbone de la France. Cela mériterait aussi de changer.
Merci Véronique Robérotte. Quand la transition énergétique vers un monde moins pollué, donc a priori meilleur, se heurte dans le même temps à son coût, parfois économique et surtout social, après l'annonce par le groupe Total de sa décision de reconvertir dans les énergies vertes sa raffinerie de Grandpuy en Seine-et-Marne, plusieurs syndicats appellent à la grève aujourd'hui pour dénoncer le plan de la direction de supprimer 150 postes et sans doute un demi-millier de plus encore, selon la CGT, si l'on tient compte des contractuels et des sous-traitants. À Béthune, c'est aujourd'hui que doit se tenir la première réunion de négociation du plan de sauvegarde de l'emploi. Comprenez la suppression annoncée de plus de 860 personnes après que l'usine de pneumatiques Bridgestone a brutalement révélé la cessation définitive de l'activité de son site à l'horizon 2021.
Si le groupe Suez a pris acte ce matin, Thomas Cluzel du rachat hier par Veolia de près d'un tiers de son capital détenu par Engie, le groupe n'en dénonce pas moins aujourd'hui des conditions inédites et irrégulières et assure par ailleurs qu'il mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour préserver les intérêts de ses salariés et de ses clients.
Oui, autant dire que son concurrent Veolia a donc encore du chemin à parcourir avant de prendre définitivement le contrôle de son rival historique bien décidé à résister. Toujours est-il que c'est donc contre l'avis de l'État, premier actionnaire de l'énergéticien français, que le conseil d'Engie a donné hier soir son feu vert à cette vente, ou dit autrement, Anne-Laure Jumet, en dépit de ses efforts pour approcher les belligérants, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a perdu la partie.
Oui, malgré la tentative de médiation, les négociations qui se sont tenues tout le week-end, on revient désormais au point de départ avec une offre de Veolia considérée comme hostile par Suez. Pourtant, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait tenté de rapprocher les positions. Mais ce matin, chez nos confrères de France Info, il n'a pu que constater les désaccords entre les deux parties.
Les mariages de force, je vous le dis, je n'y crois pas. Ça ne marche pas dans la vie et ça ne marche pas non plus dans la vie des affaires. Donc la position de l'État, elle a été constante. Il faut un accord amiable entre Suez et Veolia. Je pense que nous étions à quelques centimètres d'un accord. Nous nous sommes heurtés à l'intransigeance des uns et à la précipitation des autres.
De son côté, le PDG de Veolia assure qu'il ne lancera pas d'OPA tant qu'elle ne sera pas considérée comme amicale par Suez. Des déclarations faites quelques heures avant le communiqué de son rival, annonçant au contraire qu'il allait se battre pour éviter toute prise de contrôle rampante ou contrôle de fait. L'État apparaît donc bien impuissant, malgré son opposition au rachat par Veolia des parts d'Engie dans Suez. Bruno Le Maire d'ailleurs semblait en avoir assez de ce dossier ce matin. C'est maintenant, disait-il, aux deux entreprises de trouver les voies d'un accord.
La suite de votre journal, Thomas Cluzel. C'est un constat pour le moins sévère.
Oui, selon une étude de la Commission européenne, la France serait, après l'Italie, le pays d'Europe occidentale le moins généreux avec ses enseignants, comprenez. Le pays où ils sont le plus mal payés. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors malheureusement, c'est loin d'être une surprise, mais c'est peu dire, Hakim, que cette étude tombe assez mal dans le contexte actuel.
Oui, concrètement, en 2018, un professeur des écoles débutant, touché lors de sa première année de travail, 26 329 euros bruts, alors que son homologue allemand, lui aussi en première année de service, touchait quasiment le double, soit 50 209 euros. Et même le triple pour un Suisse par rapport à un Français. Au-delà de ces extrêmes, l'étude de la Commission européenne montre que la Suisse et l'Allemagne ne font pas du tout figure d'exception, car nos autres voisins européens, comme la Belgique, l'Espagne ou encore les Pays-Bas, eux aussi rémunèrent mieux leurs professeurs des écoles par rapport à nous. Seule l'Italie les rémunère moins bien à 23 933 euros. De son côté, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a bien prévu dans son prochain budget une hausse des salaires avec une enveloppe de 400 millions d'euros et un Grenelle en janvier pour tenter d'augmenter les professeurs des écoles. Des annonces qui laissent en tout cas sceptique Guylaine David, la secrétaire générale du SNUPP, principal syndicat du primaire.
Il parle effectivement de revalorisation en début de carrière, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que effectivement, nos enseignants débutants sont très mal payés alors qu'ils ont un master 2, ils sortent avec un niveau d'études très élevé, ils sont très mal payés en début de carrière, mais 15-20 ans après, en milieu de carrière, le salaire des enseignants n'a pas beaucoup plus grimpé. Donc il n'y a pas que les débuts de carrière qui sont revalorisés, c'est toute la profession qu'il faut revaloriser et il faut effectivement plus qu'un Grenelle, la revalorisation, c'est sûr.
Quant aux professeurs débutants des collèges, ils ne sont pas mieux lotis. Ils gagnent 27 709 euros en France contre 36 318 euros en Irlande et même 48 118 euros en Norvège. Résultat, ces dernières années, de plus en plus de postes restent non pourvus au concours d'enseignants.
Merci Hakim Kasmi. Quelques 5000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin dans les villages des Alpes-Maritimes, balayés vendredi dernier par des crues exceptionnelles qui ont fait 4 morts. Une vingtaine de personnes sont par ailleurs toujours portées disparues.
France Culture, il est midi 42, Thomas Cluzel.
Après une nuit de violences post-électorales qui ont vu des manifestants de l'opposition envahir le siège du gouvernement et libérer de prison l'ancien allié devenu le rival du chef de l'État, la commission électorale du Kirghizistan a finalement décidé ce matin d'annuler les résultats controversés des législatives qui attribuaient la victoire au parti pro-présidentiel. Alors voilà plusieurs mois en réalité que les autorités de ce pays pauvre de l'Asie centrale ex-soviétique sont minées par une série de scandales politico-financiers. Pourtant, entouré de régimes autoritaires, c'est vrai que le Kirghizistan fait généralement plutôt figure d'exception démocratique dans la région. Sauf que cette fois-ci, des accusations de fraude et notamment d'achat de voix avaient terni celles organisées dimanche dernier. Les explications de Marwaman.
Ces violences étaient prévisibles après l'appel à descendre dans la rue lancé par plusieurs partis politiques qui n'ont obtenu aucun siège à l'issue des élections législatives de dimanche. Un scrutin entaché de fraude selon l'opposition, accusation corroborée par le chef de mission de l'OSCE venu observer le déroulement du vote. Toutes les formations politiques proches du président Soronbay Jeenbekov, allié de Moscou, ont dominé cette élection et notamment le parti Birimdik, pro-présidentiel, arrivé très largement en tête. Les violences ont éclaté peu après l'annonce de ces résultats. Des milliers de manifestants ont envahi le siège du gouvernement avant de se diriger vers la prison des services de sécurité et de libérer l'ancien président Almazbek Atambayev, accusé de corruption et qui purgeait depuis l'été 2019 une peine de 11 ans. Ses partisans dénoncent une affaire montée de toutes pièces par le pouvoir afin de faire taire toute contestation. L'arrestation de l'ancien président avait d'ailleurs provoqué des violences et déstabilisé le pays. Pour tenter de mettre fin aux tensions qui secouent la capitale, Bishkek, le bureau de Soronbay Jeenbekov, l'actuel président, a annoncé hier soir que ce dernier rencontrerait ce mardi les dirigeants des formations ayant participé aux élections et d'accepter l'idée de l'organisation d'un nouveau scrutin avant l'annonce de l'annulation des résultats par la commission électorale.
En décidant hier de quitter l'hôpital, bien que toujours contagieux, Donald Trump a de nouveau laissé nombre d'observateurs pour le moins perplexes ou quand l'expérience de la maladie ne semble pas avoir changé l'approche du président américain face au virus. Bien au contraire, puisque le locataire de la Maison Blanche a même aussitôt encouragé les Américains à sortir avec prudence. N'ayez pas peur, ne laissez pas le Covid dominer nos vies, a-t-il lâché avant de promettre de reprendre bientôt sa campagne électorale. Un comportement bien sûr qui ne laisse pas indifférent, notamment son adversaire, le candidat démocrate Joe Biden, lequel a eu l'occasion de le faire savoir hier alors qu'il était en campagne à Miami. C'est un reportage signé Benjamin Fontaine.
Alors qu'il est en plein échange dans un gymnase avec des habitants du quartier cubain de Little Havana, Joe Biden évoque la crise du Covid. Donald Trump n'est pas encore sorti de l'hôpital à ce moment-là, mais son adversaire lui adresse un message.
J'ai été content de voir le président enregistrer des vidéos pendant le week-end. Maintenant qu'il est occupé à tweeter des messages, je lui demanderai de faire une chose, écouter les scientifiques. Imposer le masque dans chaque bâtiment fédéral à travers le pays.
Un peu plus tard dans la soirée, sur le plateau de NBC, toujours à Miami, Joe Biden est interrogé sur le retour du président à la Maison-Blanche, sans masque, et sur son message assurant qu'il ne faut pas avoir peur du Covid.
Il y a pourtant beaucoup de raisons de se sentir concerné. 210 000 personnes sont mortes. Un des problèmes, c'est que ce président a dit qu'il ne prenait pas de responsabilité. Sa responsabilité aurait dû être de parler, comme en temps de guerre. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes attaqués.
La stratégie de Joe Biden ne bouge pas, il veut se montrer en homme d'État responsable, capable de gérer une crise aussi importante que celle du Covid. Joe Biden qui se dit prêt à débattre de nouveau avec Donald Trump le 15 octobre, si les médecins assurent que cela ne représente aucun danger pour sa santé.
Secret du cosmos ou physique quantique de l'infiniment petit, finalement l'Académie a tranché ce matin. Le Nobel de physique a sacré trois pionniers de la recherche sur ces régions de l'univers d'où rien ne peut s'échapper, les fameux trous noirs, le Britannique Roger Penrose, l'Allemand Reinhard Genzel et l'Américaine Andrea Ghez.
Midi 46, la suite de votre journal Thomas Cluzel avec un projet de loi pour un pan d'art et d'histoire à l'Assemblée.
Oui, tout à l'heure doit être voté en première lecture le texte sur la restitution de biens culturels au Sénégal et au Bénin. 26 pièces du trésor de Béhanzin pillées au palais d'Abomey en 1892 quitteront ainsi le musée du Quai Branly. Quant au musée de l'armée à Paris, il verra lui partir le sabre et son fourreau attribué à El Hadj Omar Tall, grande figure militaire et religieuse ouest-africaine du 19e siècle. Éric Chavroux, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et tous.
Vous avez contacté Éric, le député La République En Marche des Côtes d'Armor et rapporteur donc de ce texte, Yannick Kerlogotz, lequel veut voir ici un message fort. Première traduction en l'occurrence du discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, c'était en 2017, en vue de refonder le partenariat culturel franco-africain. On l'écoute.
3 ans après, nous y sommes avec deux premières démarches qui font suite à des demandes en fait d'État à État et qui font suite surtout à une étude, je dirais, scientifique et historique portée par notamment les professionnels des musées qui sont venus confirmer finalement l'aspect mal acquis, dit autrement, que ces biens ont été spoliés durant l'époque coloniale. Donc c'est un message fort parce que au-delà d'une forme de réparation, elle est impossible, on est malgré tout sur un message, moi je le considère comme ça en tout cas, comme positif, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de reconnaître une page peu glorieuse ou un aspect plus glorieux du colonialisme et que par cette volonté de rendre, de donner, finalement, on se projette sur le futur en direction de la jeunesse africaine, par exemple au Bénin, pays composé de 11 millions d'habitants, 40% d'entre eux ont moins de 14 ans. On est vraiment sur une jeunesse africaine envers qui finalement il y a ce message non seulement d'une restitution mais d'une possibilité pour eux d'accéder à des biens culturels faisant partie de manière intrinsèque à leur patrimoine et au-delà de ça, une volonté aussi portée par la France d'entamer une nouvelle démarche de circulation des biens. Et il y a cette proposition qui a été faite par la France d'accompagner, de proposer son savoir-faire, notamment par France Expertise, mais aussi son soutien financier moyennant l'AFD, l'Agence française de développement, pour que, notamment au Bénin, puisse sortir de terre un musée qui réponde aux normes internationales et dans lequel seront, d'ici fin 2023, accueillis ces 26 objets qui font l'objet, pour le coup, de la restitution.
Voilà, et pour continuer donc d'évoquer ce sujet avec nous en direct de Berlin, Bénédicte Savoie, historienne élue au Collège de France et professeure d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin. Bonjour madame.
Bonjour.
Elle est toujours à mes côtés pour vous interroger, Éric Chavroux. Alors madame Savoie, vous avez publié, c'était fin 2018 avec l'écrivain et économiste Felvin Sarr, un rapport de référence sur la restitution du patrimoine africain, rapport remis à Emmanuel Macron. Au regard de vos travaux, partagez-vous le constat du député rapporteur Yannick Kerlogotz que nous venons d'entendre?
Absolument, ce constat reprend les grandes lignes de ce rapport que nous avions écrit avec Felwine Sarr à l'issue de 8 mois de travail, notamment sur le continent africain. Et nous suggérions, d'abord nous rappelions la provenance souvent sombre des collections qu'on appelle ethnologiques dans le reste de l'Europe, pas en France. En France, ce sont des collections extra-européennes dans les musées français. Et on considérait, Felwine Sarr et moi, qu'il fallait absolument cesser de dire non aux demandes de restitution, mais les accueillir dans la joie et dans une dynamique d'avenir telle que l'a décrite le député à l'instant.
Bonjour Bénédicte Savoie, une précision clé d'abord sur les chiffres s'il vous plaît, parce que on parle, le chiffre le plus cité c'est celui de 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne qui se trouvent dans les collections publiques françaises d'après votre rapport, avec des pièces par nature inaliénables, et 46 000 ont été entre guillemets acquises pendant la période coloniale. Or le projet de loi concerne une trentaine d'œuvres et son rapporteur évoque un total de 250 objets spoliés. Comment expliquez-vous un tel écart de chiffres ?
Ah, évidemment, ça c'est la magie des chiffres. L'idée, c'est que, donc en effet, 2/3 des collections qui se trouvent au musée du Quai Branly, il y en a dans tout le reste de la France, notamment dans les villes portuaires qui étaient liées à l'Afrique par des liens de commerce comme le Havre. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les collections du musée du Quai Branly, les 2/3 sont arrivés dans ces collections, non seulement pendant la période coloniale, mais en plus des régions coloniales françaises. Vous avez en France très peu d'œuvres venues, par exemple, des colonies britanniques. Donc il y a une vraie adéquation entre la nature des collections et la nature des colonies françaises et leur chronologie. Ensuite, les chiffres, ce sont des jeux. Et à vrai dire, si on s'inscrit dans une logique d'avenir, il faudrait dire que finalement, il s'agit de répondre oui aux demandes, quels que soient les chiffres. Alors, si le député en évoque 250, peut-être, mais ce qui est important, c'est de renouveler la relation, de cesser de dire non comme les États européens et pas seulement la France l'ont fait depuis les années 1960, puisque un grand nombre de pays africains réclament des œuvres depuis les indépendances en 1960.
En commission, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a reconnu que ces restitutions restaient, je la cite, au cœur de vifs débats, qu'elles nourrissent de nombreux questionnements éthiques, philosophiques, politiques. Ça veut dire que finalement la situation n'évolue pas, vous avez toujours autant de contradicteurs, de critiques toujours aussi virulentes. Je rappelle par exemple qu'à l'époque, le patron du Quai Branly vous avait critiqué en parlant d'un cri de haine contre le concept même de musée.
Oui, en France, le débat n'est pas très avancé. Il l'est beaucoup moins que dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne, le pays dans lequel je vis, où on peut dire qu'il y a eu, bizarrement, après l'intervention d'Emmanuel Macron, donc un effet de boule de billard transnationale qui fait qu'en Allemagne notamment, mais aux Pays-Bas, en Belgique aussi, en Suisse, le débat a fait un grand pas en avant et on peut dire qu'il y a un immense progrès psychologique sur ces questions. Les opinions publiques, les sociétés civiles dans ces pays, et je crois qu'elles le font en France aussi, même si c'est moins visible, ont compris que les collections d'art africain notamment présentées dans les musées européens ne sont pas arrivées un beau jour par un hélicoptère. Elles ont une longue histoire, et une longue histoire qui est une histoire largement de violence. Et ça, on le comprend. Et quand on le comprend, le pas à faire pour adhérer au projet de restitution est tout petit. En revanche, il est très grand quand on ne sait pas comment ces œuvres sont arrivées. Jusqu'à présent, les directeurs de musées qui emploient volontiers ces termes de cri de guerre ou des termes bien haut, fort, violent et qui font peur, c'était gardé de raconter cette histoire coloniale. Et dès qu'on la raconte, on comprend qu'on ne peut pas rester dans ces constellations.
Alors le président du Bénin, Patrice Talon, lui, s'est dit pas satisfait du projet de loi dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, même s'il reconnaît des petits pas de la part de Paris. Et il souhaite une loi générale. Certains parlent d'une loi cadre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est ce que nous avions proposé dans le rapport que nous avons soumis à Emmanuel Macron, Felwine Sarr et moi, avec une équipe de juristes. Nous avions proposé une modification du code du patrimoine qui aurait permis à l'avenir de ne pas légiférer pour chaque groupe d'objets, mais pour avoir une attitude générale, une législation générale qui dirait oui plutôt que non. Mais pour ce qui me concerne, je considère néanmoins que c'est un grand pas en avant, même si c'est un tout petit pas. Je comprends que Patrice Talon, qui a fait un énorme travail diplomatique, soit déçu, et c'est son rôle, et il peut être déçu, mais néanmoins, on vient de très loin en France. Et le simple fait qu'Emmanuel Macron ait utilisé le mot de restitution, qui est un mot tabou dans le vocabulaire politique français depuis la Révolution française, était déjà un pas. Et ces déblocages psychologiques sont, pour ce qui me concerne, à mon avis, un grand pas en avant.
Merci Bénédicte Savoie, historienne élue au Collège de France et professeure d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Éric Chavroux, ainsi qu'à notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu, sans qui ce duplex n'aurait pas été possible. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Pluvieux sur la majeure partie du pays, même si quelques éclaircies parviendront à se développer des pays de la Loire jusqu'à la Bourgogne. Quant aux températures, elles afficheront entre 13 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.